Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec vous, Yvan Rioufol. Bonjour, merci d'être là ce matin.
Bonjour, Liselotte Dutreuil.
Alors, quelle leçon tirez-vous de ce second tour des municipales? On avait entendu votre analyse après le premier tour. D'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette chronique sur notre chaîne YouTube. Et donc maintenant, voilà, on a hâte d'avoir votre avis sur ce second tour.
Elle est dans le prolongement, mais c'est un prolongement un peu négatif, car il y a de quoi d'abord être inquiet pour l'avenir quand on voit la manière dont certains maires, notamment au Blanc-Mesnil, ont été dégagés et insultés par les nouveaux vainqueurs. Au Blanc-Mesnil, c'est Thierry Meignen, un républicain qui a dû être escorté par des forces de l'ordre, insulté qu'il a été, bousculé qu'il a été par les supporters du nouveau maire, M. Tomba Traoré. Il y a eu d'autres scènes du même genre, ça n'a pas été la généralité, Dieu merci, mais d'autres scènes du même genre qui ont été notées. Moi, j'aurais espéré un dégagisme prononcé, visible, contre cette gauche sectaire, cette gauche intolérante, cette gauche violente, mais de ce point de vue, c'est un échec, car la gauche, d'une manière très générale, garde la plupart de ces citadelles, et singulièrement dans les grandes villes, dont Paris, Lyon, Marseille, Nantes, etc. Et cette consolidation électorale me semble maintenant quasi irréversible. Et de ce point de vue-là, je suis pessimiste, car cette consolidation électorale s'inscrit, dans le fond, dans un séparatisme territorial qui s'est élargi aux grandes métropoles et non plus seulement aux cités d'immigration. Paris n'est plus vraiment la France et les territoires perdus de la République ne sont plus seulement ceux des banlieues. Il y a un bouleversement sociologique qui va écrire la vie politique jusqu'au présidentiel. En fait, les municipales illustrent l'existence de deux Frances qui s'opposent, celle des, je vous en parle souvent, celle des déracinés et celle des enracinés, c'est-à-dire celle de des grandes métropoles mondialisées, excusez-moi, perméable à l'immigration de masse, et celle des périphéries, celle de la France rurale, où se sont réfugiés, dans le fond, tous les perdants de la mondialisation qui ont été pour partie expropriés des grandes villes, par le prix exorbitant des loyers notamment, soit expropriés des banlieues et de leur nouvelle population par incompatibilité d'humeur, si je puis dire. Et dans les grandes villes, la gauche s'annonce maintenant hégémonique, comme à Nice, sauf à Nice, qui a su résister grâce à l'union des droites. L'autre constatation face à cette sécession territoriale, et plus réjouissante d'ailleurs malgré tout, c'est la bonne résistance, notamment du Rassemblement national et du parti d'Éric Ciotti et d'une partie des Républicains, parfois dans certaines petites villes qu'il détenait déjà. Notamment le Rassemblement national s'installe dans les petites villes et les villes moyennes de cette France de la périphérie dont je vous ai décrit les contours. Il y a eu 70 villes qui ont été gagnées par l'ERN, ce qui n'est pas rien, ce qui le place vraiment en vainqueur malgré ses échecs et à Marseille et à Nice, qui sont d'ailleurs des échecs qui ont été dus notamment, peut-être pas seulement, mais notamment à cause du maintien d'une liste républicaine. En tout cas, le Rassemblement national s'affirme un peu plus comme une force d'alternance, d'autant que le groupe central, le groupe macronien, affiche des résultats plus que médiocres. Je crois qu'il y a eu deux maires à peu près qui se réclamant du président de la République qui ont été élus, ce qui est bien peu. Mais l'urgence aujourd'hui, bien sûr, est pour les Républicains de clarifier une fois de plus, une fois encore, toute leur position face au Rassemblement national. Alors, je sais qu'il y a une réunion ce soir au Parti des Républicains pour essayer de clarifier la doctrine. J'entendais hier sur une radio Valérie Pécresse, républicaine, donc, qui plaidait pour une alliance de la droite et du centre, en rejetant naturellement tout accord avec le Rassemblement national. Mais cette posture me paraît maintenant indéfendable et même idiote, dans la mesure où nous avons un affrontement, encore une fois, de deux France qui oblige à choisir son camp et le choisir clairement. Le camp central aujourd'hui ne permet pas d'avoir ces genres de positions radicales. Il faut être radical. Et aujourd'hui, la gauche, il faut vraiment faire obstacle à la gauche et à son électorat diversitaire en se rassemblant autour de candidats patriotes, de candidats nationaux. Quand je vois que que François Fillon que se fait photographier auprès de d'Éric Ciotti, quand je vois que M. Lisnard se fait photographier auprès d'Éric Ciotti, quand je vois que Nicolas Sarkozy a déjeuné longuement, 2 heures paraît-il, avec Jordan Bardella il y a quelques semaines, on voit bien qu'il y a malgré tout, au cœur même des Républicains, des réticences à obéir aux mots d'ordre qui voudraient être lancés par une partie de ces Républicains du groupe central afin de rendre le Rassemblement national répulsif. Donc, tout doit être fait pour réduire géographiquement la gauche et la Nouvelle-France. Et malheureusement, je constate aussi que les abstentions freinent ce mouvement de résistance.
Et les abstentionnistes, justement, est-ce qu'ils n'ont pas renoncé au dégagisme Yvan Rioufol?
C'est toute la question et c'est encore une autre déception. C'est-à-dire que, en effet, il y a eu, encore une fois, l'abstention est quasiment équivalente à celle de la semaine dernière, c'est-à-dire 43%, ce qui est quand même énorme. Et c'est pour moi, bien sûr, une source de déception, une source d'inquiétude. J'ai cru à un moment, je vais vous en faire l'aveu, que l'électorat nantais, vous savez, c'est une ville que je connais bien, parce que j'y suis né, j'y ai commencé dans le journalisme, j'ai cru que l'électorat nantais allait pouvoir se réveiller et allait pouvoir balayer la mère socialiste, d'autant qu'elle avait conclu cet accord dit de la honte, et c'était bien un accord de la honte en effet, avec la France insoumise et tout ce qu'elle colporte. Mais encore une fois, à Nantes, comme dans toutes les autres agglomérations, malheureusement, la démographie a sans doute pris toute sa place et est trop forte pour s'opposer maintenant aux tentatives de résistance, même qui avaient été de la part de Chambardelot tout à fait bien menées, parce qu'il a quand même il a échoué à 48%, je crois, ou à peu près. Mais donc, je pense qu'il y a là maintenant, à travers cette substitution de population dans ces grandes agglomérations, une force politique qui va basculer, qui peut changer la donne en 2027. Pardon. Je vous rappelle, par exemple, qu'en 2012, quand François Hollande a été élu face à Nicolas Sarkozy, il a été élu grâce à l'apport de l'électorat musulman. C'est le million de voix qui a fait la différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande a été apporté par l'électorat musulman. Donc, il faut prendre en considération cette donnée démographique-là. Et donc, je pense que malheureusement, Nantes, comme toutes les autres villes, ne sont plus gagnables par la droite. Il faut accepter cette donnée-là. Et puis, il y a aussi, au cœur de l'électorat conservateur ou libéral, une méfiance vis-à-vis de la démocratie. Sinon, cet électorat viendrait davantage participer aux élections. Il y a une méfiance de la démocratie et de ses représentants. Beaucoup de candidats n'étaient sans doute non plus pas à la hauteur. Je pense notamment à Rachida Dati à Paris ou à Jean-Michel Aulas à Lyon. Et cette défiance démocratique oblige les partis nationaux, les partis patriotes, à réfléchir aux moyens de démocratiser davantage la démocratie, quitte à quitter cette monarchie républicaine imposée par la Ve République. Et de ce point de vue, je me rapprocherai, c'est bien sur le seul sujet, des critiques portées par la France insoumise, qui elle aussi pense qu'il faudrait changer de république. Je pense qu'en effet, une république plus horizontale s'imposerait aujourd'hui, vu le goût participatif, malgré tout, des citoyens à vouloir en finir avec ces gouvernements élitistes qui n'entendent plus les peuples. Mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, moi, je crois que d'abord, rien n'est perdu. Dieu merci, nous avons encore un an avant les présidentielles. Et je crois très fortement à la force de la contre-subversion intellectuelle qui s'exprime de plus en plus au cœur de la France oubliée, c'est-à-dire là où les résistances s'organisent, là où les réseaux sociaux commencent à empêcher le discours dominant d'imposer ses vues, là où les cercles de réflexion plus ou moins formés essaient de faire émerger des idées divergentes, là où les médias alternatifs, comme vous êtes vous-même, éveillent les consciences et font comprendre qu'il y a une force de résistance qui est à organiser. Donc, pour tout ceci, je pense que, d'abord, vous avez un rôle, tout ce monde-là a un rôle important qui consiste à réveiller les torpeurs et à contredire les culpabilisations qui ont été instillées diaboliquement par le discours dominant et sa propagande qui criminalise la préférence nationale, la nostalgie, les Français de souche, les Français de cœur, etc. Moi, je suis persuadé, j'en ai fait un livre dont vous avez eu la gentillesse de parler, je suis persuadé que nous vivons une révolution conservatrice qui est amenée, qui oblige à être menée à son terme. Et dans cette France périphérique, il y a une force démographique qui représente 60% de l'électorat qui peut permettre en effet à ces Françaises oubliées de s'imposer électoralement à la France mondialisée des métropoles et des banlieues, si les Français le désirent. Donc, encore une fois, c'est un appel en effet à la vigilance de tous ces Français-là qui est aux violences. Il faut alerter sur les dangers d'une gauche qui est prête à accompagner toujours plus de submersions migratoires en traitant de fascistes ceux qui les opposants. La gauche et l'extrême gauche visent, de mon point de vue, à travers de mêmes méthodes, elles visent naturellement à changer de France, à remplacer la France avec des accords techniques ou pas. Et il faut donc rendre cette gauche répulsive, mais je pense qu'elle fait le boulot elle-même.
Merci beaucoup, Yvan Rioufol, pour cette chronique et cette analyse. On était ravis de l'entendre. Encore une fois, elle complète très bien celle de la semaine dernière. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure.
À demain.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et on poursuit déjà avec Richard Decaize. Bonjour Richard.
Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs.
Et Mériadec Raffray donc. Bonjour
Mériadec. À tous les deux.
Bonjour Mériadec, vous êtes rédacteur en chef Valeurs Actuelles Monde et nous allons parler de l'Iran. Je voudrais faire juste avant une petite introduction pour expliquer à tous ceux qui nous expliquent qu'on est des sales macronistes juste parce qu'on a considéré que le fait d'envoyer le Charles de Gaulle en Méditerranée n'était pas une idée complètement idiote et manifestait que la France avait encore une puissance autonome. Et donc, voilà, le fait d'avoir salué, semble-t-il, quelque chose que fait Macron, nouveau, d'être voué aux gémonies. Alors, je tiens à dire, évidemment, que ce n'est pas parce qu'une fois on dit que Macron a fait un truc bien que ça signifie que nous sommes devenus macronistes. Mais cela dit, voilà, n'hésitez pas à le penser si ça vous tente. On va continuer à parler de la guerre en Iran parce qu'il y a un autre président qui dit plein de choses. Voilà, alors, il a dit qu'il allait annihiler l'Iran. Après, il a dit que finalement, il n'allait pas le faire. Et puis, il a dit qu'il allait donner 48 heures pour annihiler l'Iran. Et que l'Iran avait intérêt à s'annihiler elle-même avant qu'il ne l'annihile lui-même. Et personne n'a été annihilé parce que Donald Trump a donné 5 jours à l'Iran pour ne pas être annihilé. On a un peu de mal à comprendre, mais malgré tout, quelque chose se dessine.
Oui, c'est exactement ça.
On a l'impression, en fait, que Donald Trump cherche un moyen de s'en sortir.
Et c'est exactement le sentiment qu'on a. Il faut rester prudent, c'est encore un sentiment, parce qu'avec Donald Trump, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, il a la parole relativement libre et on a parfois du mal à le suivre. Donc, il faut rester prudent. Mais effectivement, on a le sentiment que Donald Trump essaye de sortir du piège stratégique dans lequel les Iraniens, les faibles Iraniens, les Iraniens qui sont bombardés en permanence depuis bientôt 4 semaines, ont réussi à attirer Donald Trump et Israël, mais surtout en fait les États-Unis. Ce piège, en fait, il est aujourd'hui essentiellement composé du goulot d'étranglement d'Hormuz, qui bloque aujourd'hui en fait la sortie du golfe Persique du gaz et du pétrole. Mais, pardon. Ce piège menaçait de s'étendre, de s'élargir. La semaine dernière, il y a eu vraiment plusieurs événements la semaine dernière qui sont importants et je vais essayer de résumer un peu, c'est l'enchaînement des quelques événements importants qui ont lieu la semaine dernière pour expliquer en fait ce nouveau début de revirement de Donald Trump, puisqu'en fait, il faut rester prudent, on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Je pense que le premier coup de semonce, en fait, date du 16 mars. 16 mars, c'était lundi dernier, il y a une semaine, et les Israéliens déclarent qu'ils ont réussi à éliminer Ari Larijani. Alors, Ari Larijani, effectivement, c'est un des durs du régime. C'était le patron du Conseil suprême de la Sécurité nationale. C'est, vous savez, ce fameux Conseil de la Sécurité nationale qui avait officiellement, confirmé en fait l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. C'est cette instance en fait qui gérait officiellement et qui endossait, voilà, je cherchais le terme, qui endossait cet accord sur le nucléaire. Bien sûr, après en avoir référé et avoir discuté et négocié avec l'ensemble des autres institutions multiples hein, qui gèrent en fait ce pays, vous savez, c'est un système non pas comme nous vertical mais par cercle concentrique. Et Ari Larijani en fait c'était aussi, on le savait plus ou moins, mais ça m'a été confirmé. Ari Larijani était encore celui qui parlait directement aux Iraniens, aux Américains, pardon, il y a quelques jours avant son assassinat, enfin ça, son élimination, puisqu'on est dans une guerre, donc on n'est plus dans un temps de paix. Et donc c'était une initiative israélienne et qui, à mon avis, les historiens le confirmeront ou l'affirmeront d'ailleurs. Vous voyez, il faut rester prudent. En tout cas, avec les éléments qu'on a aujourd'hui à disposition, il semblait qu'Ari Larijani, c'était un peu l'homme avec lequel les Américains discutaient du futur de l'Iran. Premier événement, lundi 16. Et puis, deuxième événement, mercredi 18 mars. Cette fois, Israël monte d'un cran dans l'escalade du conflit, puisqu'elle décide, ses avions en fait tapent ce qu'on appelle South Pars. Et South Pars, c'est l'énorme champ gazier exploité par l'Iran au large du Qatar. On est entre le Qatar et l'Iran. Et là, il y a un énorme champ gazier qui est partagé en deux. La partie sud ou sud-est appartient aux Iraniens et la partie nord-ouest appartient aux Qataris. C'est d'ailleurs de là que les Qataris tirent leur énorme richesse financière. C'est un gisement qui représente à peu près 20 à 30% de l'ensemble des réserves mondiales de gaz. Les Israéliens décident pour la première fois, ça c'est important à expliquer, pour la première fois ils décident de taper non pas des infrastructures pétrolières qui sont en fait plutôt des endroits où l'on stocke du carburant, où l'on stocke des hydrocarbures, mais cette fois ils s'en prennent au système de production, aux infrastructures de production. Ça, c'est vraiment un fait nouveau et c'est considéré comme un certain nombre d'experts, en particulier français, comme escalatoire, c'est-à-dire c'est une véritable ligne rouge, d'ailleurs à la fois pour les Iraniens et pour les gens du Golfe Persique, puisque évidemment, dans la foulée, ce qui arrive, c'est que les Iraniens répliquent en tirant dans la foulée un missile sur le pendant de South Pars, c'est-à-dire les installations de Rafla Lafous, qui se trouvent donc de l'autre...
Côté
Qatari. Et eux aussi, les Iraniens, tapent les infrastructures de production à telle enseigne que officiellement, le Qatar a dit que la production allait diminuer de peut-être presque un tiers hein, dans les jours et les semaines qui arrivaient, sachant que par ailleurs, le détroit est de toute façon est bloqué. Et donc là, il y a eu véritablement une escalade. C'est à ce moment-là qu'on a vu Trump dire « Non, non, moi, j'étais pas au courant. » Ensuite, dire « Ils l'ont fait contre notre volonté. » On a bien perçu, en fait, là, un hiatus stratégique entre Israël et Washington. Et en fait, juste pour expliquer aux lecteurs la raison pour laquelle c'est une escalade, premièrement, Rafla Lafouz, ce gisement de gaz est directement connecté en fait par exemple à l'Irak, c'est-à-dire l'Irak bénéficie directement du gaz qatari. Le fait de détruire complètement, ce qui n'est pas le cas, ces installations de production, ça dans la foulée ça priverait tout l'Irak de gaz. Donc imaginez l'impact économique sur l'Irak. De l'autre côté, cela signifie chez les Iraniens, c'est une ligne rouge absolue. D'ailleurs, même l'opposition iranienne à la télévision française explique que là les Israéliens ont franchi un cap qui n'est pas acceptable pour les oppositions iraniennes, car cela revient en fait à casser la richesse du pays et non plus le régime islamiste d'Iran, de la République islamique d'Iran. Donc on n'est pas du tout dans le même registre militaire. Et par ailleurs, c'est aussi affaiblir véritablement cette société iranienne qui est déjà affaiblie par les années de boycott et 15 jours de guerre. Et donc c'était une véritable... entorse à un espèce de pacte non écrit, voulant que les Américains et Israéliens étaient le bienvenu pour frapper les intérêts de la République islamique d'Iran, mais pas l'Iran elle-même. Par ailleurs, on observe depuis 15 jours maintenant, ou 3 semaines, que les Iraniens, même s'ils sont noyés sous un déluge de bombes et de missiles, plus ou moins intelligents, iraniens et israéliens et américains, on parle de plus de 7000 frappes du côté américain par exemple, ils font le dos rond, ils encaissent les coups qui sont ultra sévères, mais ils encaissent les coups, ils se, comme disent les militaires, ils se desserrent dans la profondeur à la fois géographique et physique du territoire iranien, je rappelle...
1,5 million de kilomètres carrés. Voilà,
3 fois la France, et je rappelle, en termes de profondeur, on peut aussi parler de hauteur, puisque une bonne partie du territoire iranien est composée de montagnes, qui sont évidemment, qui ont été percées comme des gruyères à certains endroits, pour y cacher et mettre à l'abri ce que le régime a de plus précieux. Et donc ces gens-là se desserrent, malgré l'élimination de 50 têtes du régime visible, celui-ci en fait continue à envoyer, à montrer, à comment dirais-je, à témoigner d'une riposte coordonnée. Moi, c'est ça qui me frappe en tant qu'analyste, et on est bon, je suis pas le seul évidemment, c'est-à-dire qu'on voit et en fait à chaque fois que Israël et les États-Unis passe une étape supplémentaire dans les frappes stratégiques, il y a une réponse quasiment automatique, mécanique. Et de même niveau des Iraniens. Et c'est là où je voulais en venir. Troisième événement important, d'abord, il y a un troisième demi-événement, c'est donc après l'élimination de Hari Larijani, la semaine dernière, on a vu... la nomination officielle, le régime iranien, en fait, nommé à des postes officiels de nouvelles têtes, et notamment, on peut parler de Mohsen Rezaei, qui était ancien chef des guides des gardiens de la révolution, un général, qui a été nommé conseiller du guide suprême, le fameux Mojtaba Khamenei, dont on se demande s'il est toujours en vie, s'il réside toujours en Iran ou en Russie, qui parle par communiqué interposé, mais dont on n'a pas vu la tête ni le visage depuis quelques semaines, depuis qu'il a été nommé d'ailleurs. Ce Rezaei est un dur du régime. C'est lui notamment qui avait été l'un des stratèges de la guerre Iran-Irak. On a vu aussi la nomination de Mohamed Ali Jafari, ancien général. La montée en puissance également de Mohamed Sadek Larijani, qui est le frère de Larijani, qui lui est un mollah. Enfin, on a vu émerger 2 ou 3 têtes à des postes... des postes clés du régime. Et dans la foulée... donc c'était un premier signal d'un durcissement en fait de la stratégie que l'Iran allait déployer face aux Israélo-Américains. Plus les frappes augmentaient, plus en fait le régime envoie les signaux selon lesquels il va durcir sa riposte. Et évidemment dernier événement en date, c'est le tir d'un missile samedi 21 mars. Sur, il y a deux endroits, mais un en particulier s'appelle Dimona, qui est une ville israélienne dans le sud du Negev, et elle est très connue évidemment des stratèges, parce que à quelques kilomètres de Dimona, c'est là qu'Israël a installé ses installations stratégiques liées au nucléaire militaire.
Il faut le rappeler, Israël est une puissance nucléaire, militaire, même si ça fait partie des secrets les plus éventés du monde.
Voilà, et même si elle ne l'a jamais reconnu officiellement. Ce missile samedi est tombé dans des quartiers résidentiels de Dimona. Il y a eu 2 missiles qui sont tombés, un autre dans une ville un peu plus éloignée. Il y a quasiment presque 150 blessés. Enfin, les dégâts sont importants, mais le message est clair. Cette fois, nous frappons Dimona, nous sommes capables de frapper Dimona. Donc aujourd'hui, les experts s'interrogent pour les raisons pour lesquelles les systèmes de boucliers antimissiles n'ont pas cette fois fonctionné. Toujours est-il que le message est clair, c'est « Messieurs les Israéliens, continuez à frapper. Nous vous prévenons, nous pourrions aussi frapper le cœur de votre puissance, ce qui constitue véritablement votre ultime bouclier, à savoir la dissuasion nucléaire. » Je m'empresse de préciser que c'est un message. Je dis pas que les Iraniens vont le faire. En tout cas, c'est le message envoyé.
En tout cas, c'est le message qui a été compris par tout le monde.
Et alors, pour aller dans le sens que je, enfin dans mon sens ou dans le sens qu'un certain nombre d'experts estiment être la bonne façon de comprendre les choses, dans la foulée, Donald Trump a eu une de ces sorties qui lui est propre et qui est assez hallucinante, en expliquant qu'en fait, il donnait 48 heures aux gardiens de la Révolution pour débloquer le détroit d'Ormuz, et finalement, il se rétracte, il dit non, finalement, les 48 heures, on va les prolonger en 5 jours, et d'ailleurs, on les prolonge parce que nous avons eu des contacts avec les hauts responsables du régime, qui laissent sous-entendre qu'ils sont prêts à négocier. D'ailleurs, nous serions quasiment prêts, j'ai pas eu les termes exacts de Donald Trump dans son message, mais nous serions quasiment prêts d'un accord, quasiment sur l'essentiel,
Il a évoqué 15 points d'accord.
Voilà, et sachant qu'il dit on est quasiment d'accord sur tous les points d'accord. Nous avons, alors je ne peux pas vous dire avec lesquels personnages nous parlons, mais des négociations sont en cours et donc on va donner 5 jours. Et donc, nous ne mettrons pas à exécution notre menace, à savoir frapper systématiquement, avait-il dit, l'ensemble des centrales thermiques et centrales électriques du pays de l'Iran. Et donc, en fait, en quelques mots, Donald Trump fait baisser la pression, il fait baisser l'escalade qui était enclenchée, qui était très dangereuse. Alors il y a plusieurs explications. L'un des premiers effets de cette sortie un peu surprenante, même si l'on connaît Trump, c'est que dans la foulée, on voit que deux indicateurs ont réagi. Le premier, c'est les cours du pétrole, qui sont légèrement redescendus autour de 100 dollars, c'était hier. Un deuxième indicateur intéressant, c'est que les marchés, les indices boursiers, en fait, ont remonté. Donc c'est un signal. C'est un signal qu'ils ont apprécié, en fait, le signal envoyé donc de Trump, à savoir, finalement, on ne va pas escalader. Un troisième signal, on peut même ajouter un troisième signal, c'est que les taux d'intérêt à 10 ans des bons du Trésor américain, eux aussi, qui flambaient, ont aussi accusé une légère baisse. Donc on voit bien que ces trois signaux qui sont absolument majeurs pour l'Amérique de Trump et pour la conduite de la guerre se sont légèrement détendus, si vous voulez. Donc certains disent même, et alors je pense que là c'est manquer de prudence car on n'a pas d'éléments factuels pour le dire, certains disent même que Donald Trump en fait était obligé de lâcher du lest parce que les marchés allaient exploser. Il y a plusieurs signaux, certains disent qu'il y avait une décorrélation entre les marchés financiers asiatiques et occidentaux. Bref, je ne rentrerai pas dans cette mécanique, je suis incompétent pour ça.
Et puis ce n'est pas non plus comme si les financiers étaient véritablement les oracles les plus sûrs.
Pour nuancer votre pic, Richard, je dirais quand même que on voit bien que depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, les marchés ont tendance à suivre et à réagir quasiment au doigt et à l'œil aux déclarations et aux décisions de Trump. C'est assez impressionnant. J'en parlais encore hier avec un expert basé à Washington qui me disait à chaque fois que Trump réagit ou avance ou lance une décision qui a un impact économique, qu'il soit international ou national, il y a une réaction des marchés. Et me disait-il, ce que j'observe depuis un an et demi, c'est que les marchés quasiment obéissent au doigt et à l'œil à Trump. Alors c'est une formule qui signifie en fait que les marchés comprennent ou d'ailleurs ne comprennent pas, mais en tout cas sont très réactifs en fait à la politique de Trump qui elle-même est directement corrélée aux intérêts économiques des marchés américains. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, les Iraniens l'ont si bien compris qu'ils ont donc, je le disais la semaine dernière, ils ont décalé leur réponse étant les faibles face aux forts, en faisant le dos rond pour supporter les bombardements massifs, tout en armant le piège d'Ormuz, qui est le piège suprême, qui bloque la sortie en fait de 20% du gaz et du pétrole mondial, et qui a un effet direct sur les cours mondiaux. C'est la prime géopolitique au pétrole, sachant qu'en fait, cette prime, tout le monde la paye, et en particulier les Européens aujourd'hui, qui ont des systèmes d'amortisseurs qui ne sont pas visiblement calibrés pour faire face à cette prime géopolitique. Les Américains la payent aussi un peu avec une augmentation de 20% des prix de l'essence à la pompe pour les Américains, mais ceux qui la payent cash, ce sont les Asiatiques, avec des pénuries sérieuses et sévères dans tous les pays asiatiques, moins la Chine, car la Chine a des grosses réserves stratégiques, mais par exemple le Vietnam, la Thaïlande, le Laos, les Philippines, dans tous ces pays, les gouvernements ont pris des mesures pour restreindre en fait l'accès aux pompes à essence. Il y a même actuellement des pénuries sévères dans ces pays, avec un effondrement des circulations, en particulier de deux roues. Donc on voit bien que ce piège d'Hormuz, il est redoutable pour Trump. Et j'en viens donc à votre, pour boucler la boucle, à votre question. C'est, on voit bien là que Trump, et d'ailleurs c'est l'avis des journalistes américains que je lisais ce matin, qui explique que Trump en fait tente de sortir du piège d'Hormuz en expliquant qu'une négociation est désormais possible avec les Iraniens.
Alors que, voilà, il avait expliqué qu'il y a quelques jours qu'il avait ravagé en fait l'intégralité du commandement, et donc brusquement un nouvel interlocuteur a surgi. Ce qu'il y a de fascinant dans la manière dont Trump conduit la guerre, c'est qu'on a l'impression que cette guerre était censée être rapide, elle rentre dans sa quatrième semaine. Évidemment, si on dit qu'on donne 5 jours de négociation, la quatrième semaine va être conclue et la guerre peut continuer pendant encore 2 à 3 semaines. Une partie des analystes financiers, une partie des analystes économiques disent, en fait, Trump va vouloir conclure cette guerre. Il commence à annoncer une négociation fructueuse. Chez lui, le fait d'annoncer que la négociation va bien, ça permet généralement de conclure en expliquant qu'il a remporté une victoire. Et donc, cette victoire, ce sera peut-être une victoire américaine. Il y a une chance que ce soit une défaite israélienne, parce que donc, Israël a l'air de ne pas vouloir conduire exactement la même guerre que celle des États-Unis. Et enfin, troisième partie dont on parlera, c'est la façon dont les pays du Golfe sont en train de réagir. Eux-mêmes sont les victimes collatérales, mais pour le moment, ils n'ont pas réagi, et on a l'impression, notamment avec le Qatar qui voit ses champs pétroliers menacés, qu'ils commencent à la fois à se dire que l'Iran n'est vraiment pas un voisin très agréable, mais que les États-Unis ne sont pas l'allié le plus sûr, et qu'Israël commence à être lui aussi un voisin extrêmement embarrassant.
Alors, première notion, rapidité, lenteur. Effectivement, au bout de 3 semaines, on sent que le piège d'Hormuz peut être fatal pour les Américains, mais en même temps, je rappelle que, alors ça paraît à la fois 3 semaines, on a l'impression que les choses s'enlisent, et en même temps, 3 semaines, c'est très court. Je rappelle que par exemple, les bombardements sur la Serbie en 1999, c'est 78 jours de bombardement non-stop, 36 000 sorties aériennes pour les Américains, et d'ailleurs qui ont finalement produit assez peu d'effets militaires. Il y a eu ensuite une négociation, mais disons que les effets militaires ont été, en tout cas, les effets militaires n'ont pas eu d'effet politique, c'est-à-dire n'ont pas eu pour effet un changement de régime. Donc, rapidité, lenteur, encore une fois, en fait, les États-Unis aujourd'hui ne sont pas embourbés comme au Vietnam. Il n'y a pas d'homme au sol pour l'instant. Les avions, on les envoie au-dessus de l'Iran, on les rappelle dans la foulée. Finalement, il n'y a pas d'impact, de dégâts, si vous voulez, sur les armées. Il y a eu quelques morts américains, ce n'est pas significatif au regard de l'intensité du volume des opérations actuelles. Donc, ce que fait Trump aujourd'hui, demain matin, comme vous le disiez d'ailleurs, il peut très bien stopper l'affaire en disant, on a gagné pour telle et telle raison. On rappelle nos porte-avions, etc. Et finalement, on passe à autre chose. tant que, je dirais que le critère en fait pour la bascule militaire ou l'enlisement, c'est probablement si les Iraniens étaient en mesure d'infliger des pertes aux armées israélo-américaines, ce qui n'est pas le cas. Il faut être très clair. Ils sont en mesure de riposter, de décaler leur riposte, mais absolument pas de faire d'atteindre le potentiel militaire des coalisés. Et deuxième critère, c'est si Trump mettait des troupes au sol. Et là, effectivement, ce serait l'Irak en pire, puisqu'on voit bien que les Iraniens en fait sont dans une posture de riposte. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je m'empresse de dire, je suis incapable de vous dire oui ou non, l'Iran peut s'effondrer, la défense iranienne peut demain matin, mercredi matin, s'effondrer, Richard. Je n'en sais rien. En tout cas, tout laisse à montrer que si aujourd'hui les Américains mettaient des troupes au sol, les choses seraient très très compliquées pour les Américains. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs ce qui se passe avec les Israéliens au Liban actuellement, au Liban Sud. Ils progressent. Je change de géographie, mais pas de sujet. On est dans le même sujet. C'est un point intéressant. Les Israéliens sont en train de raser systématiquement, de détruire systématiquement tous les obstacles dans la bande des 3 à 5 à 7 kilomètres le long de la frontière israélo-libanaise côté libanais. Et les combats qui ont lieu sont absolument très très dur. Le Hezbollah ne lâche absolument rien. Il y a même eu, selon mes informations, déjà des Merkava israéliens qui ont été détruits par le Hezbollah. Les choses sont très compliquées et on voit bien d'ailleurs que les Israéliens, pour l'instant, disent qu'ils vont aller dans une opération longue, mais font ça de manière très prudente. Donc c'est juste une analogie pour montrer que si le Hezbollah, qui a le même schéma mental, la même formation que les gardiens de la Révolution, imaginez les gardiens de la Révolution sur leur propre terrain, préparés depuis des années à affronter en fait les Américains. Ça, c'était pour la rapidité et la lenteur. La victoire et la défaite, autre sujet que vous avez esquissé. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que je vais publier bientôt dans les colonnes de Valeurs Actuelles l'interview d'un ancien patron du Shin Bet. C'est le Shin Bet, c'est le renseignement militaire israélien. Quelqu'un donc qui a dirigé en fait tous ceux qui se combattaient l'Iran il y a quelques années. Donc, pas un bisounours, pas un pro-iranien, un militaire, un combattant israélien, un homme dont la mission était de protéger Israël au devant, au large, au loin de ses ennemis. Et il disait en fait, ce que ne comprennent pas les Occidentaux, c'est que chaque jour qui passe sans que l'Iran n'abaisse le drapeau ou ne couche les pouces, est une victoire pour l'Iran, puisque l'Iran est en survie, en fait. Et à l'inverse, ces jours supplémentaires, chaque jour supplémentaire passé à combattre sans rendre les armes, produit en fait, en quelque sorte, une défaite, esquisse en fait le lit d'une défaite de l'Occident, qui en fait n'arrive pas, qui lui a besoin de marqueurs absolument évidents pour déclarer cette victoire. Et aujourd'hui, dit cet Israélien, les Occidentaux raisonnent en nombre de chars détruits, en nombre d'infrastructures détruites, en nombre de cibles politiques éliminées, mais l'addition de ce bilan militaire ne fait pas forcément une victoire politique. Et c'est là où je pense qu'il y a un hiatus. Et même si ce pays sera noyé sous les bombes, ses infrastructures militaires détruites, son potentiel nucléaire muré, détruit ou muré, ce qui est factuellement une défaite pour la République République islamique d'Iran, il n'empêche que les Iraniens, les Mollahs pourront dire, ou les Mollahs ou leurs successeurs, en l'occurrence plutôt les gardiens de la Révolution, c'est-à-dire les durs, pourront dire « we are still alive, nous sommes toujours en vie, nous sommes toujours aux commandes de ce pays, nous avons vaincu l'Amérique, ou en tout cas nous avons porté, mis en échec l'Amérique ». Donc les deux narratifs ne seront pas tout à fait vrais au regard des faits, il n'empêche que politiquement, cela pourrait être un problème pour l'Amérique. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis qu'on est Je le dis pour vos éditeurs qui ont, voilà, pour être resté nuancé, parce que je pense qu'il est très compliqué aujourd'hui de dessiner l'avenir de cette guerre. Et vous savez, comme beaucoup de stratèges et de militaires le savent, la guerre a sa propre logique. C'est-à-dire que vous avez beau penser en stratège de la guerre vous échappe, et ensuite vous devez en fait, en quelque sorte, vous adapter à la logique de la guerre. Et on en est là aujourd'hui. Toujours est-il que et pour peut-être le mot pour terminer.
Non, on a encore 5 minutes, et ça va nous permettre de justement de parler de la réaction des Golfiques.
Voilà, en tout cas, pour l'instant, l'Iran tient tête.
L'Iran tient tête. Alors, on a parlé de la position des États-Unis, on l'a bien comprise. Israël a l'air d'être engagé dans une autre guerre, beaucoup plus existentielle. Et enfin, il y a les pays du Golfe pour le moment, ont l'air de ne pas réagir.
Alors ces pays du Golfe, ils sont dans une situation, finalement, ce sont eux les premières victimes de cette guerre. Quand on regarde bien les effets de la riposte iranienne, elle est nulle sur les États-Unis. D'ailleurs, au passage, je signale que les Américains, quelque chose qui n'est pas apparu dans la presse, les Américains, la semaine dernière, ont passé un pacte avec les milices irakiennes chiites, mais un véritable pacte, une trêve en quelque sorte, pour leur permettre de rapatrier sur le sol américain environ 3000 soldats américains qui étaient présents encore en Irak et qui étaient véritablement les otages de ces fameuses milices irakiennes chiites, regroupées dans cette entité en fait paramilitaire, puisqu'ils n'avaient pas été dissous par le gouvernement. Donc là aussi, on a un petit sujet pour les Américains. Ce dossier fermé pour les Américains, aujourd'hui, les véritables victimes de la riposte américaine, ce sont les pays du Golfe. Ce sont eux qui, aujourd'hui, essuient le plus de dommages, à la fois physiques. J'ai plus les chiffres en tête, mais si on prend les Émirats Arabes Unis, qui sont les principaux, la principale cible des missiles et des Shahed, des drones Shahed iraniens, on compte le nombre de tirs depuis le début de la guerre par milliers. On est à plus de 1000, 1500 ou 2000, ce qui est considérable. Il y a plusieurs infrastructures pétrolières dans le Golfe Persique qui ont été visées par les Iraniens, à la suite d'ailleurs de la passe d'armes sur le gaz Qatari. Les Iraniens ont également touché une raffinerie saoudienne de l'autre côté du théâtre d'opération, sur les bords de la mer Rouge. C'est pour vous donner une idée de l'extension en fait de la riposte iranienne. Et bien sûr, la riposte iranienne cible Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, je l'ai dit, de manière plus anecdotique, Oman, et aussi l'Arabie Saoudite. Et on voit bien que là, les Iraniens tutoient une ligne rouge. C'est aussi une menace. Jusqu'à présent, ils avaient touché plutôt des infrastructures légères, sans incidence véritablement économique. Mais la menace est posée sur la table. Les Iraniens ont dit, si vous allez plus loin chez nous, on touchera les infrastructures de production comme ils l'ont fait au Qatar, mais également les infrastructures de dessalement de l'eau de mer. Et dans cette région, la majorité, en fait, l'essentiel de l'eau potable utilisée à la fois pour des usages des particuliers et des usages industriels. Vous savez que l'eau est indispensable à l'industrie des hydrocarbures, l'industrie chimique, qui sont un des points forts de ces pays. Eh bien, si l'Iran s'attaque aux usines de dessalement d'eau de mer, ce sera une véritable catastrophe pour le Golfe Persique. Donc, si on ajoute, si on cumule ces frappes qui ont un effet, bloquent le trafic aérien, qui donc bloquent les échanges, le tourisme qui est une manne principale de ces autres que les hydrocarbures de ces pays, qui viennent menacer en fait le cœur nucléaire économique de ces pays, à savoir l'or noir et le gaz. Là, on est véritablement dans un schéma catastrophique, sachant que ce détroit d'Ormuz qui est bloqué, c'est évidemment les flux physiques de pétrole et de gaz qui sont bloqués, mais ce sont également les flux des produits transformés qui sont bloqués. On vous en avait sans doute parlé ici. On parle par exemple l'hélium, je crois que c'est le Qatar qui est un des principaux fournisseurs mondiaux, producteurs mondiaux d'hélium, un gaz qui rentre dans tout un tas d'industries, en particulier l'industrie hospitalière et pharmaceutique. C'est également les usines d'engrais qui sont les engrais qui sont bloqués, avec des conséquences, je pense, qui vont être mesurables très fortement, notamment en Afrique, notamment en Amérique du Sud.
Mais même en France, il y a déjà des inquiétudes sur les engrais azotés. Et il nous reste 2 minutes, même pas 1 minute et 13 secondes. à votre avis, ces pays font-ils pression? Alors, sur l'Iran, sur les États-Unis, sur Israël.
Je pense qu'aujourd'hui, ces pays disent à la coalition américano-israélienne, ou surtout aux Américains, ne nous lâchez pas en rase campagne. C'est-à-dire, ne nous laissez pas au milieu du guet face à cet Iran aujourd'hui déchaîné et capable de tout pour survivre. Et je pense que le message qu'ils envoient aujourd'hui aux Américains, c'est « les gars, vous avez ouvert le feu là où on vous disait plutôt de privilégier une solution diplomatique, même bancale, à une guerre qui serait difficilement contrôlable, aux effets difficilement contrôlables. Maintenant que vous êtes en guerre, il va falloir trouver une solution définitive avec l'Iran, quelle qu'elle soit. » Et ils disent aussi, attention les Iraniens, si vous allez trop loin, nous allons également devoir rentrer aux côtés de la coalition américano-israélienne, parce que dans cette perspective, nous n'aurions plus rien à perdre, et donc c'est notre survie qui est en jeu.
Merci beaucoup Meriadec Raffray, et évidemment à la semaine prochaine pour la suite des événements.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec la chronique de Victor Aubert. Bonjour Victor.
Bonjour Lisette.
Alors cher Victor, quel regard portez-vous sur les résultats de ce second tour des élections municipales?
Bien, l'impression qu'il n'y a pas de vrai gagnant. Alors ce qui était amusant, c'est finalement que tout le monde, tous les chefs de parti ont proclamé la victoire, la percée, la remontada de leur parti politique. Mais en réalité, je pense que nous avons, depuis un certain temps, quitté les vieilles dynamiques d'avant 2017 pour rentrer vraiment dans cette France archipélisée dont parle Jérôme Fourquet. On voit à travers ce scrutin qu'il y a 3 blocs qui, en quelque sorte, représentent 3 Frances qui ne se parlent plus. D'un côté, il y a la France périphérique, c'est-à-dire la France des villes moyennes, qui a plutôt plébiscité le Rassemblement national dans des proportions historiques. On peut penser à Carcassonne et à d'autres villes moyennes qui sont... donc justement avec une municipalité Rassemblement National. De l'autre, on a ce qu'on pourrait appeler la Nouvelle France, donc cette France finalement où la diversité va élire ses propres représentants, comme on l'a vu à Roubaix, à Saint-Denis avec les succès de la France Insoumise. Et puis on a dans les grandes villes un bloc urbain qu'on pourrait appeler Bobo, qui continue de choisir la gauche, les Verts, hein, Paris, Marseille, Lyon. Et même si finalement les écologistes n'ont pas connu les scores qu'ils avaient connus lors des précédentes municipales, néanmoins c'est toujours finalement cet esprit d'une France bobo qui arrive à gagner dans les grandes villes. Et puis on voit que malgré tout cela, le Parti Socialiste, les Républicains arrivent quand même à encaisser, on pourrait dire, leurs échecs à l'échelle nationale, puisqu'ils ont un maillage local très fort. Et que grâce à des personnalités qui ont réussi à gagner leur notabilité dans ces petites villes, eh bien, ils ne subissent pas leur échec qui peut être retentissant à l'échelon national.
Et alors, ce vote, est-ce qu'il ne serait pas aussi marqué par une fracture générationnelle?
C'est sans doute pour moi, je pense, le point le plus alarmant, hein, parce qu'on voit que le poids des boomers dans cette élection reste écrasant, hein, si vous regardez les chiffres. 88% de participation chez les plus de 75 ans, contre seulement 34% de participation chez les 18-26 ans. Donc l'écart est énorme. Plus on descend dans les générations, plus il y a un désintérêt pour la politique officielle qui est manifeste. Mais je voudrais Néanmoins, faire remarquer que cette dépolitisation n'est pas forcément de la paresse, c'est surtout le sentiment que les vrais enjeux ne se situent pas à l'échelle électorale. L'identité, la sécurité, le sens de la vie, tout ça ne se règle pas par les urnes. Et donc la génération Z ne croit plus forcément au pouvoir des élus de changer le réel. Elle préfère parfois d'autres formes d'engagement qui ne passent pas par les partis politiques, mais sur des engagements de terrain, ou parfois aussi également le repli sur soi à travers l'individualisme.
Alors, le Rassemblement national réalise sa plus grande percée, mais semble encore buter sur les grandes métropoles. Pourquoi, selon vous ?
Alors, je pense que le Rassemblement national souffre aussi un petit peu de sa propre structure, qui est très centralisatrice. Il y a très peu de subsidiarité à l'échelle donc, du Rassemblement national. Et parfois, on a l'impression que ça n'a toujours pas été compris, qu'on ne gagnait pas une mairie par simple parachutage ou simplement parce qu'on a une étiquette nationale. Une élection municipale, bien finalement, c'est une élection qui se gagne aussi avec des personnes et des personnes qui finalement ont réussi à travers un travail local, on pourrait dire de labourage sur le temps long, eh bien, à gagner leur légitimité. Donc je pense qu'il manque d'abord, premièrement, au Rassemblement national, une véritable culture du travail local de longue haleine. Et puis deuxièmement, eh bien, il y a toujours un électorat boomer qui reste le pivot électoral et qui conserve cette peur du parti du Rassemblement national. Et puis il y a un manque de cadre formé pour gérer ces structures complexes. L'alliance avec Éric Ciotti à Nice, ça montre une évolution, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a toujours un plafond de verre pour le Rassemblement national dans les métropoles de plus de 100 000 habitants. C'est la réalité qui a été encore démontrée lors de ces municipales.
Bon, face à ce constat, Victor, que préconisez-vous concrètement pour les élus et les citoyens de demain ?
Je pense qu'il faut, prendre acte de ces métamorphoses françaises. Je pense qu'il faut prendre conscience que la démographie dans la France périphérique est un des enjeux, on pourrait dire, prioritaires, un des enjeux centraux. Et que pour cela, eh bien, effectivement, si le maire a peut-être peu d'influence sur le nombre d'enfants par femme, il peut néanmoins essayer de réattirer dans sa commune des familles. Et pour cela, il faut déjà réussir à relocaliser du travail local dans la France périphérique, en attirant des entreprises, en attirant des artisans, en essayant justement de faciliter la vie des commerces, en essayant de diminuer les charges pour toutes les entreprises au sein des villes. Ensuite, je pense qu'il est très important d'arrêter cet étalement de la construction de neuf. En France, c'est toujours assez mystérieux. On a des centres-villes qui sont morts, mais on continue justement de construire des grands ensembles immobiliers tout neufs. Pour des primo-accédants ou pour des gens qui veulent investir dans l'immobilier, moi je pense qu'il faut que les maires prennent ce sujet-là à cœur, qu'ils essayent de réhabiliter les centres historiques, qu'ils essayent justement de faire en sorte de sortir de la vacance commerciale, de réimplanter de la vie au cœur des villages. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont pu être menées par des associations qui pourraient être encore plus fortes si elles étaient soutenues par des mairies. Je pense notamment à des tiers-lieux, à des épiceries, etc. Et puis, il y a aussi également la question de la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, le narcotrafic est présent jusque dans les communes rurales et un maire courageux doit s'attaquer au narcotrafic déjà en passant par le blanchiment d'argent à travers justement tous ces barbershops, ces ongleries qui fleurissent dans des villages où le commerce normal n'arrive même pas à tenir. Et puis, il y a également aussi cette conscience justement que l'histoire, la culture est un moyen de mobilisation et de transmission très fort. Et donc, il est important justement de soutenir des initiatives qui vont dans ce sens, qui essayent de produire du beau, qui essayent de réaliser des grands spectacles. Et là-dessus, il y en a déjà de nombreuses qui existent, qu'il faut continuer de soutenir, même si l'extrême gauche aboie en insultant justement toutes ces initiatives d'être d'extrême droite. Et puis enfin, je pense que le christianisme, c'est sans doute la condition de la survie profonde de notre pays. Et je pense que les maires de demain doivent faciliter l'implantation des communautés religieuses, des écoles indépendantes, dans les territoires ruraux, parce que c'est aussi cette nouvelle évangélisation qui pourra justement être un nouveau poumon spirituel pour la France. Donc, chers auditeurs, voilà, je vous invite à ne pas attendre que toutes les solutions viennent du haut, viennent de l'État, mais que vous essayez justement d'aider au sein de vos communes eh bien, à bâtir justement des nouvelles communes enracinées.
Merci Victor Aubert pour cette chronique et puis voilà, on invite tous les élus qui pourraient nous écouter à suivre vos conseils et en tout cas les auditeurs à essayer de faire remonter ce genre de dynamique, à faire comprendre que ce sont les attentes des Français aujourd'hui et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine Victor.
À la semaine prochaine.
Zone libre.
On poursuit quelques minutes en zone libre avec Louis Rigaudière. Bonjour Louis.
Bonjour Liselotte, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin.
Vous parlez de Claude.
Ah Claude, ben oui,
qui est Claude,
Monsieur Claude. On pourrait se demander, hein, c'est vrai. Non, mais... Alors pour les auditeurs, hein, vous savez que je parle très régulièrement d'intelligence artificielle, d'IA et des dernières actualités. Claude est une intelligence artificielle qui en ce moment rencontre un succès très, très massif, très intéressant, parce que le ChatGPT commence un petit peu à vieillir hein, et maintenant, les concurrences est très violente hein, sur les intelligences artificielles. Et Claude, en ce moment, est en train de faire parler de lui depuis ce matin parce qu'il a créé une nouvelle mise à jour qui, sans doute, va un petit peu renverser la table dans le monde du travail hein, parce que Claude va permettre en fait, de simplement contrôler un ordinateur.
Voilà,
à distance.
C'est
voilà, donc comme quoi on pourrait en quelques clics hein, tout simplement remplacer l'ensemble des métiers de bureau hein, avec des tâches répétitives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demander à Claude, donc cette IA générative et qui va pouvoir tout simplement faire des tâches comme remplir un document, télécharger voilà, des applications, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez majeur qui est en train de se produire. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois d'une autre application qui avait créé cette idée et qui était d'abord réservée aux professionnels. Mais il y avait quand même quelques soucis de sécurité. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, mais il faut un petit peu prendre du recul parce que si vous donnez à l'IA l'accès à votre ordinateur, vous lui donnez également accès à des données extrêmement sensibles. Et donc la question de la sécurité est posée. Est-ce que Claude a accès simplement à des fonctionnalités très primaires, écran, clavier, souris, ou est-ce que Claude a accès à vos données bancaires ?
Oui.
Donc voilà, c'est quand même assez difficile pour l'instant de répondre à cette question, mais quoi qu'il en soit, c'est clair que les concepteurs d'IA maintenant vont viser cette étape-là, c'est-à-dire que leur objectif maintenant est de rendre un ordinateur totalement autonome et voilà, par conséquent, supprimer tous les emplois qui pourraient y être rattachés. Et c'est quand même voilà, une avancée majeure et les employeurs vont devoir se poser des questions, de nombreuses questions très dérangeantes. Hein. Est-ce qu'ils vont devoir reformater toutes leurs entreprises au bénéfice de l'IA et au détriment des employés humains?
Voilà, on espère que les politiques aussi vont s'interroger, les juristes, voilà, il va y avoir beaucoup de questions. On espère que les philosophes seront conviés à cette réflexion d'ailleurs, parce que ça dépasse la technique. Là.
Il y a des grands enjeux de sécurité, vous faites bien de le préciser, Louis, parce que les données personnelles, souvent, on les confie à ces IA pour avoir des informations en retour et forcément, après, elles sont gardées. Et la sécurité informatique, c'est sûrement un des grands enjeux du siècle qui arrive. Même ce matin dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 240 000 agents de l'éducation nationale dont les données ont fuité. Donc, c'est le numéro de téléphone, l'adresse, les noms, enfin, voilà. Donc, c'est des sites du gouvernement. Hein,
voilà, tous les jours, il y a des fuites. Et c'est très inquiétant. La France a beaucoup de retard là-dessus sur la sécurisation des données. Et c'est pour ça que voilà, l'IA, il faut faire très attention avec ça parce qu'évidemment, on peut lui donner accès vraiment à tout et n'importe quoi.
Et donc, si je demande à Claude d'envoyer la petite musique de fin...
Ah bah, écoutez, allez-y, on va faire un test. Hein.
Claude envoie la petite musique.
Voilà. Ah bah oui. Il est bon, il est bon.
Merci Louis, merci Franck pour cette zone libre. Et de toute façon, on essaiera de parler du sujet un peu plus longuement demain, chers auditeurs. Pour le moment, le direct sur YouTube et sur X prend fin. Vous pouvez continuer à nous écouter sur rc.fr ou sur la bande FM. Si jamais vous nous quittez, n'oubliez pas de nous soutenir. C'est très important pour qu'on puisse continuer à se développer, à parler de tout dans une totale liberté de ton. Donc on a besoin de vous.
On a besoin de vous, chers auditeurs, puisque vous êtes les seuls à financer l'intégralité de Radio Courtoisie. Si vous pouvez faire un geste, même petit, 1 euro, 5 euros, peu importe, si tous les auditeurs qui écoutaient donnaient 1 euro ou 5, tout serait réglé pour nous.
Bah, vous êtes des centaines de milliers à
voilà,
nous écouter.
Faites le calcul. Soutenir.rc.fr pour apporter votre contribution qui est défiscalisable. Soutenir.rc.fr, merci d'avance.
Merci d'avance, chers auditeurs, et puis un grand merci à ceux qui donnent déjà. Tout de suite, on parle de l'Aïd el-Fitr, quand l'islam envahit nos rues. C'est avec Fadila Maroufi.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous débutons avec Fadila Maroufi, militante belgo-marocaine pour la laïcité, cofondatrice et directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes, basé à Bruxelles, et donc auteure de nombreux ouvrages, notamment « Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture » aux éditions de La Boîte à Pandore. Bonjour et merci d'être avec nous, Fadila Maroufi.
Bonjour, merci de votre invitation.
On vous a invité pour parler de l'Aïd el-Fitr qui avait lieu donc en cette fin de semaine dernière, et donc en France, mais aussi au Royaume-Uni, j'imagine en Belgique, mais vous allez pouvoir nous le dire. On a assisté à énormément de prières de rue de la part des musulmans qui voulaient célébrer cette fête. Et donc, évidemment, on va s'interroger à nouveau sur la pertinence déjà d'occuper les rues européennes pour pratiquer son culte, ce que ça pose comme question en termes de laïcité, mais au-delà de ça, voilà ce que ça révèle encore une fois d'une forme d'islam qui a tendance à vouloir s'étendre dans le domaine public et s'imposer finalement à l'ensemble de la population. Est-ce que vous pourriez peut-être donc commencer par nous expliquer comment ça s'est passé en Belgique ? Est-ce que vous avez eu ces mêmes phénomènes avec vraiment des rues qui se retrouvent noires de monde, des stades entiers qui débordent et qui se retrouvent complètement bloqués ?
Alors en Belgique, nous avons eu des rues effectivement qui ont été débordées, mais disons qu'en Belgique, ça devient normal et puis ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas forcément besoin de faire et d'utiliser cette démonstration de force. Actuellement, on voit bien que Bruxelles est soumise et est devenue charia compatible. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que la France commence à aussi, depuis déjà l'année passée, vous avez eu exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a une démonstration de force dans la rue, qui renvoie un double message. Un premier message pour les musulmans, pour leur dire que nous sommes là, nous sommes prêts et nous devons être unis. Et de l'autre côté, un autre message pour les non-musulmans, pour dire qu'ils sont en force, qu'ils prennent le pouvoir et surtout faire peur. Parce que vous savez, nos pays en Occident, on a connu depuis plusieurs décennies maintenant des attentats, des attaques. Vous avez rappelé la mort de Beltram, qui est mort en héros. C'est systématiquement, en fait, ça nous rappelle tout ceci et ça peut faire peur aussi. Ça fait peur aux populations, ce qui peut susciter évidemment une sidération et du coup empêcher les gens d'agir. Nos gouvernements n'agissent plus. On voit bien qu'au niveau politique, ça pose aussi problème. Vous avez vu en France ces derniers jours, moi je l'ai vu en tout cas depuis la Belgique, on vous observe, législative, on voit bien qu'LFI s'impose comme le Parti Socialiste l'a fait en Belgique, le PTB, l'extrême gauche et la gauche l'ont fait en Belgique, et finalement ont cédé à toutes les demandes des islamistes. Donc, je crains, et je vois que la France prend le même chemin malheureusement que la Belgique, et donc il est important d'avoir, et il est temps d'avoir un chef d'État, pas un homme ou une femme politique, mais un chef d'État qui prend ses responsabilités et qui est capable de répondre.
Puisqu'on a eu quelques réactions politiques très 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 minces, je pense notamment par exemple au maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré, qui vient d'être réélu et donc qui s'est offusqué de cette occupation de l'espace public. Et en fait, on a la sensation qu'il s'est retrouvé assez désarmé, que ce soit judiciairement ou politiquement, parce qu'il se retrouve donc à partager son mécontentement, notamment sur les réseaux sociaux. Il interpelle l'imam en disant je vous avais pas donné l'autorisation de bloquer telle rue, vous l'avez fait sans autorisation, vous êtes passé outre les décisions de la mairie, donc faudra pas que ça se reproduise. Mais bon, ça s'arrête là. On a un imam qui lui répond pareil par voie de réseaux sociaux lui considère n'avoir rien fait de mal. Et on se demande comment ça se passera l'année prochaine. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on sent les maires assez démunis face à ce phénomène.
Oui, ils n'ont pas besoin d'autorisation. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de renvoyer comme message, c'est-à-dire c'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est que ils ne sont pas soumis sous les lois des hommes, mais plutôt celui de la loi divine. Et donc, ils ont obtenu l'autorisation de Dieu. Donc, quelque part, vous voyez, ils vont encore aller plus loin. Chaque année, ils prendront encore plus de place, ils s'imposeront de plus en plus, tant que les autorités, tant que personne ne fera face à eux. Parce qu'il faut bien comprendre que pour les personnalités politiques, les hommes politiques, et c'est pour ça que LFI a gagné certaines élections dans certains endroits, c'est que le vote des musulmans est important. Et c'est ce que les politiques regardent. Donc, il faudrait que les citoyens puissent s'emparer du sujet, puissent comprendre ce à quoi ils ont affaire, et demandent, exigent des solutions exigent que nos politiques réagissent. Tant qu'ils ne le feront pas, tant que les citoyens ne le feront pas, les politiques le feront de moins en moins, ils auront peur de perdre un électorat. Parce qu'un homme politique ne voit que ça, il ne voit que sur du court terme, contrairement à un homme d'État. C'est pour ça que je vous disais qu'on a besoin d'hommes d'État, on a besoin de personnalités fortes qui puissent prendre des mesures qui soient coercitives.
Et alors peut-être aussi avons-nous besoin d'une prise de conscience collective, parce que c'est vrai que face à ce phénomène, il y a peut-être beaucoup de Français qui se retrouvent au moins interloqués. Vous l'avez dit, certains sont effrayés. Mais en tout cas, le discours dominant, c'est en fait, c'est complètement pacifique. C'est une occupation religieuse de la rue, mais c'est très temporaire. C'est le temps d'une fête. Il faut offrir à chacun aussi la possibilité de pouvoir célébrer ses coutumes. Et donc, on nous explique qu'il n'y a rien à craindre, que ça passe, et puis qu'il n'y a pas de message politique derrière ces prières de rue. Vous, Fadila Maroufi, vous travaillez donc sur l'islam, et j'imagine que vous avez une lecture un petit peu différente de cette façon dont l'islam choisit d'occuper l'espace.
Non, mais la fête de l'Aïd el-Kbir n'a pas besoin d'espace de rue pour se fêter. Cette fête, c'est des repas de famille, c'est des rencontres de famille, c'est aller à la mosquée pour prier, mais on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour faire une démonstration. Ils profitent de cette situation-là parce qu'ils ont compris que les Occidentaux, ce sont les idiots de toute façon, ils ne réagiraient pas. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que l'Occident ne réagit absolument pas. Et à chaque fois qu'on ne réagit pas, eh bien, ils iront un peu plus loin, jusqu'à ce qu'ils imposent un peu partout, finalement, leur norme islamique. Je pense qu'il faut absolument, il est plus que temps qu'on forme et qu'on informe les gens sur qu'est-ce que l'idéologie islamiste. Tant qu'on ne le fera pas, tant que nos jeunes à l'université ne sont pas formés et informés, évidemment, on vous traitera comme des idiots et on poursuivra la conquête de l'Europe. C'est ce qui est en train de se faire et c'est ce qui se fera.
C'est une forme de conquête pour vous, ces prières de rue, Fadila Maroufi?
De conquête, c'est de la conquête. Quand ils vont faire la dana dans une église, l'appel à la prière dans une église, sous le nom du vivre ensemble, et qu'en plus les autorités de l'église sont d'accord, c'est une conquête. Ils montrent pour tous les musulmans dans le monde, c'est on a pris le lieu. Vous savez, quand l'islam a envahi jusqu'à Poitiers, pour eux, c'est terre d'islam et il faut la reconquérir. Et bien, c'est exactement la même chose. À partir du moment où ils ont pris un endroit, il appartient à l'islam, il n'appartient plus au culte à laquelle il a appartenu. Donc ils effacent petit à petit notre histoire, ils effacent l'histoire de l'Église, ils effacent les traces ou empreintes d'une Église pour la remplacer avec celle des pratiques islamiques. C'est comme ça, et tant que les Occidentaux, encore une fois, resteront idiots, eh bien ils avanceront et ils auraient tort de ne pas le faire, puisque c'est quelque part, c'est légitime. Donc à nous de réagir, à nous de dire qu'on ne voulons pas de ça, et j'espère qu'il y aura une réaction des Français et de la France.
Vous avez mentionné l'Église, et ça c'est un argument, un contre-argument que j'aimerais... auquel j'aimerais vous entendre répondre, parce qu'on l'entend très souvent, c'est qu'on nous dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on devrait être choqué que des milliers de musulmans occupent la rue, alors qu'en France, par exemple, on a encore des pèlerinages qui s'organisent, catholiques, qui passent dans certains villages, dans les rues. Il y a le pèlerinage de Chartres, par exemple, qui là aussi regroupe beaucoup de fidèles. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne devrait pas aussi s'offusquer du pèlerinage de Chartres, Fadila Maroufi?
Vous avez ce qui appartient à la culture, à une civilisation et à un pays, et puis vous avez une autre culture qui vient et qui essaye de s'imposer. Ici, le problème, si vous voulez, c'est que le pèlerinage à Chartres n'impose pas des règles et n'essaye pas d'imposer des règles et une norme islamique chrétienne qui dépasse la loi. Il respecte la loi du pays, alors que, et puis je suppose qu'ils ont obtenu des autorisations et que se fait depuis des centaines d'années, alors que ici, pas d'autorisation, on s'impose et on veut imposer surtout des normes islamiques et c'est un rapport de force. Ce n'est pas quelque chose qui est culturel, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie.
Oui, c'est ça. C'est en fait, on sort du domaine purement religieux. Et pourtant, encore une fois, c'est comme ça qu'on nous le présente. C'est-à-dire que ça déborde et on va chercher... Enfin, il faut voir dans ces symboles, ce que vous nous dites, un aspect culturel, mais aussi un aspect politique qui nous dépasse complètement et dont on n'a pas encore pris conscience. Pourquoi est-ce qu'il y a ce tabou autour du projet islamiste dont vous nous parlez, Mahfadila Maarouffi ?
Parce que ça fait plus de 40 ans qu'il travaille au sein de nos universités, que certains professeurs orientalistes ou professeurs d'islam ou qui sont censés, et d'anthropologues, sociologues qui sont censés travailler sur ces sujets-là, ferment les yeux, n'ont jamais voulu en parler. Parce que vous savez, à partir du moment où vous critiquez votre sujet d'étude, vous n'y avez plus accès. Et donc, finalement, ces gens ont une lourde responsabilité, ils se sont tus. Et vous avez à côté de ça d'autres chercheurs, d'autres professeurs qui, eux, sont menacés maintenant parce qu'ils en parlent. J'en pense notamment à Florence Bergeau-Blaclair, mais il y en a d'autres qui en parlent et qui osent critiquer. Pourtant, ils font juste leur travail. Eh bien, eux, ils sont menacés de mort. Et qu'est-ce que l'État fait pour eux ? Il faut se poser la question, il faut voir aussi quelles sont leurs conditions. Et je crains vraiment pour leur vie, pour leur futur, parce que j'ai l'impression que l'État abandonne de plus en plus le droit des citoyens. Vous l'avez dit là tout à l'heure, cette femme qui a tenté de se défendre face à une agression. Mais comme je le dis toujours, il vaut mieux se retrouver en prison que sous terre.
Oui, bien sûr. Et c'est assez impressionnant parce qu'on reçoit souvent... des personnalités politiques qui essaient justement de lancer l'alerte à propos de ces projets islamistes, notamment au niveau européen, parce que les islamistes sont très puissants au niveau de l'Union européenne, beaucoup de lobbies. Mais on recevait par exemple la semaine dernière Pascal Le Petit, qui lui s'est retrouvé poursuivi parce qu'il avait dénoncé les actions de l'IESH, qui entre-temps avait été dissous. Et on voit que donc en plus de cette peur qu'on peut avoir à s'opposer à des musulmans qui parfois passent à l'acte, et on le voit bien, on a aussi reçu Majidou Kacha qui nous expliquait la pression avec laquelle il vivait désormais au quotidien pour avoir simplement émis une critique sur l'islam. On voit qu'il y a aussi une grosse pression politique et juridique sur les personnalités qui tenteraient justement d'alerter sur tout ça.
Oui, et d'ailleurs le djihad, qui veut dire la guerre, hein, pour certains disent l'effort, mais bon, en réalité c'est la guerre. On nous a déclaré la guerre, et la première guerre, ce sont les attaques terroristes, mais vous avez aussi la guerre, le djihad judiciaire, donc les attaques par le juridique. On vous tue juridiquement pour que financièrement vous vous épuisiez, vous vous fatiguiez et vous cédez. Donc il faut bien comprendre cette logique et il faut bien comprendre la stratégie des islamistes. On vous attaque sur tous les fronts et finalement, toutes les personnes qui tentent de garder tête et qui tentent de sauver, on va dire ce qu'on peut sauver, finalement s'épuisent et finissent par s'effacer et par abandonner. Et c'est ce qu'il faut certainement pas faire. C'est pour ça que les citoyens doivent se lever. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait des soutiens, financiers pour pouvoir combattre juridiquement ces personnalités, qu'on puisse continuer notre travail. Nous sommes tous confrontés au même problème. Nous avons des difficultés parce que nous sommes attaqués sur tous les fronts et nous ne sommes pas soutenus sur tous les fronts.
Mais écoutez, en tout cas, Fadila Maarouffi, on va continuer à essayer de vous donner la parole puisque c'est déjà un bel outil pour pouvoir rester au front, justement. Merci donc pour votre travail de recherche. Merci d'accepter de faire tomber ce genre de tabou. Et puis merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que donc vous êtes cofondatrice et directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes basé à Bruxelles. Puis les auditeurs peuvent suivre vos travaux sur les réseaux sociaux et retrouver certains de vos ouvrages, notamment « Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture ». Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette matinale avec nous. Comme d'habitude, je vous le rappelle, la radio a besoin de vous pour fonctionner. C'est comme ça qu'on est financé depuis le début. Ça nous permet d'être libre, indépendant, de ne pas avoir de publicité. Mais donc, on compte sur vous.
Un modèle unique hein, dans le paysage radiophonique français et peut-être même mondial. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Nous refusons toute ressource publicitaire, ce qui est un confort pour notre indépendance et pour vos oreilles. Comme ça, pas de publicité. Mais cela a un coût. Il faut que vous vous engagiez à nous soutenir et que vous nous aidiez à défendre vos idées. Alors pour cela, rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. faire pour faire un don en fonction de vos besoins. Si chaque auditeur nous donnait par exemple 1 euro, déjà nous serions sortis d'affaires. Alors essayez de faire ce geste dès maintenant. Merci d'avance.
Et merci à ceux qui donnent déjà. Quel sera le programme du jour ?
Dans quelques instants et en direct les mardis de la mémoire d'Anne Colin pour un éclairage sur la violence en politique et le terrorisme intellectuel au lendemain des élections municipales, donc dans 3 minutes. À midi, le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine d'Olivier Doutrebente. À 17h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges. 17h30, restons courtois en direct avec Richard de Sèze. 19h30, le libre journal de la résistance, de la vie française dirigé par Laurent Poultier du Ménil. 21h30, le libre journal de la réaction d'Hilaire de Crémier pour l'histoire de l'Algérie de 1830 aux années 1950. Et puis à 23h, rendez-vous avec Virginie pour la soirée musicale. Aujourd'hui, les meilleurs moments du classique.
Et demain, on reçoit notamment Bruno Gollnisch. Donc soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et à demain, 7h.
À demain, bonne journée à tous.